Ouais, ben Joe Smith Jr. qui vient de passer un violent KO à Eléider Alvarez, boxeur de 36 ans de Montréal qui maintenant devra réfléchir à son avenir, tandis que Joe Smith Jr. lui se dirige vers un combat de championnat du monde pour le titre WBO des 175 livres laissé vacant. Ça a été un combat qui a été dominé de bout en bout par l'Américain. Et là, on peut se poser des questions, Sébastien, parce que on l'a mentionné avant que le combat commence, mais Eléider Alvarez n'a pas eu nécessairement la chance de se préparer de la même façon qu'un boxeur comme Joe Smith Jr., parce qu'ici, ben, les conditions étaient pas mal différentes.
Exactement. Au Québec, les règles de la santé publique étaient très, très sévères, surtout au niveau des sports de combat. Parce que dans tous les autres sports de contact, comme le soccer, le football, le hockey, ben écoute, la vie est belle, il n'y a pas de problème, on peut travailler, mais au niveau de la boxe, on était très limité. On n'avait pas accès à des partenaires d'entraînement, on n'a pas accès justement à l'entraînement rapproché. Puis ça coûte cher, ça peut avoir coûté la carrière d'Eléider Alvarez parce que, écoutez, même si on dit, ah, ben, probablement qu'il a trouvé des sparring partners, ben, tu peux pas faire venir n'importe qui au Québec. Les entrées, les Américains ne pouvaient pas rentrer si facilement ici. Les règles étaient plus sévères pour nous. Donc, est-ce que, bon, c'est une conséquence au niveau de la boxe parce que c'est un sport qui est un peu mal vu au Québec? Écoute, c'est à se poser la question. On est en réflexion depuis mais plus qu'une semaine, plus de 10 jours du côté de la santé publique pour savoir si on peut permettre à la boxe professionnelle de revenir. Puis ensuite, au niveau amateur, qu'est-ce qui se passe? Puis on n'a pas eu de nouvelles encore.
Effectivement, parce que, écoute, on parle de gouttelettes. Il n'y a pas plus de gouttelettes. Il y a des gouttelettes dans un ring de boxe, mais il y a des gouttelettes aussi quand deux gars se chamaillent sur la glace puis jouent au hockey. Donc, effectivement, c'est une décision qui est un peu loufoque présentement et qui est décriée partout dans le monde de la boxe professionnelle. Et écoute, il y a d'autres boxeurs qui vont s'en aller dans la bulle prochainement. Michael Zuski, notamment, qui a un combat important prévu le 12 septembre, ben, il est dans le même bateau. Lui aussi doit se préparer en étant très, très limité au niveau des combats d'entraînement. Donc, ça peut aussi coûter très cher. Kim Clavel qui a réussi, elle, à aller à Vegas, à gagner son combat, à être spectaculaire. Mais écoute, c'est triste ce qui s'est passé ce soir dans le ring avec Eléider Alvarez. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui attend le boxeur montréalais? Parce qu'à 36 ans, on le disait d'entrée de jeu, mais c'est un combat de la croisée des chemins. C'est soit tu t'en vas en championnat du monde, soit tu réfléchis à la retraite. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour Alvarez?
Ben écoute, si on relance la boxe tranquillement au Québec, si on peut réouvrir les événements, si un jour les spectateurs vont rentrer au Stade Saputo prochainement, pas assez à mes yeux. Mais bon, ça va commencer tranquillement. Est-ce qu'on peut se permettre de penser que bientôt on pourra faire un gala de boxe justement avec quelques milliers de spectateurs? Ça serait intéressant. Si oui, ben écoutez, Jean-Pascal a encore une ceinture et champion du monde. Présentement, on le fait attendre, donc il n'est pas en position justement pour monnayer sa ceinture. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour lui d'aller chercher un combat avec Alvarez à long terme? Si c'est pas tout de suite, ben c'est quand même dans les prochaines années aller chercher une revanche. Ça peut être payant pour les deux boxeurs. Donc Alvarez a toujours des possibilités. Il y a des boxeurs aussi qui développent présentement au Québec.
Ouais.
Des boxeurs. Donc est-ce qu'Alvarez peut devenir une marche à passer pour un athlète local? On ne sait jamais aussi.
Qu'on appelle un gatekeeper, donc un protecteur du top 15. Mais en même temps, tu veux-tu vraiment te retrouver dans cette situation-là, Sébastien, quand tu as 36 ans? Parce que, écoute, il a eu une belle carrière. Il a réussi à être champion du monde. Il a accompli tellement qu'à partir d'un certain moment, est-ce que véritablement ça vaut la peine? Est-ce que tu as besoin d'argent au point où tu deviens un gatekeeper ou un faire-valoir?
Ben, c'est ça. Moi, ma vision de la chose, je suis d'accord avec toi. Parce que moi, écoute, si j'ai pas de chance de me battre à championnat du monde, si j'ai pas de chance d'être champion du monde, écoute, je l'ai fait par le plaisir. La boxe, c'est vraiment ça. Donc, c'est ça que moi, de mon côté, si je suis Alvarez, je regarde les possibilités. Si ça me prend deux combats pour revenir en championnat du monde, OK, je suis prêt à prendre le risque. Mais s'il faut que je fasse un chemin de 5, 6, 7, 8 combats, c'est trop risqué. C'est trop risqué. On aime trop la vie pour ça.
Est-ce qu'à ton avis, le fan de boxe québécois serait intéressé par un combat revanche entre Jean-Pascal et Eléider Alvarez? Parce qu'on vous rappelle qu'en 2017, Alvarez avait battu Jean-Pascal par décision majoritaire. On se rappelle que Jean-Pascal, lui, a mis la main sur un titre WBA récemment. Est-ce que le fan de boxe, selon toi, aurait un intérêt marqué pour ce combat-là?
Ben écoute, faut réhabituer les gens à se déplacer. Moi, c'est pas juste à cause de la pandémie, mais même avant, les gens sont habitués d'être bien à la maison. Les jeunes aujourd'hui, écoute, j'avais une conversation, les jeunes se voit sur les réseaux sociaux, se voit sur des jeux vidéo avec des écrans séparés, mais physiquement, se voit pas. Donc, est-ce qu'on peut déplacer 10 000 personnes, 20 000 personnes? Ça serait pas facile.
Parce que ce que tu dis essentiellement, c'est que pour les boxeurs québécois, pour les combats locaux comme ça, ce qui est payant, c'est la vente de billets, c'est pas nécessairement la télévision.
Ben non, c'est ça. Dans les réseaux de télé peuvent donner un certain montant, mais il y a quand même une limite. Il faut que les boxeurs puissent vendre. Puis c'est l'avantage qu'on avait dans le passé. Il y a 20 ans, ou disons il y a 15 ans, on était capable de vendre un 18 000 billets. Maintenant, écoutez, si on réussit à vendre un 10 000 billets, c'est extrêmement, extrêmement bon. Puis c'est vraiment parce que les nouvelles générations sans dire qu'ils sont moins présents, ben c'est différent. Ils sont habitués justement à suivre les choses en ligne. C'est une nouvelle façon de fonctionner. J'ai bien hâte de voir. Pour Alvarez, là, ce serait vraiment intéressant de le revoir boxer au Québec. On ne veut pas le voir comme adversaire, comme tu dis. Je pense que c'est pas ce qu'on souhaite à un athlète. Si ça peut être un combat payant pour lui, tant mieux. Mais sinon, il a un bon entourage, des bons amis. Il va tout le temps être apprécié au Québec. Puis sinon, il a une famille aussi en Colombie. Donc, je pense qu'il doit regarder ça.
Avant de te laisser aller et de vous laisser aller, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'excite pour les prochaines semaines dans le monde de la boxe professionnelle québécoise. On n'a pas l'occasion de voir de combats ici, de voir de galas au Québec, mais est-ce quelque chose qui t'allume particulièrement dans les prochaines semaines, prochains mois chez nos boxeurs québécois?
Ben, c'est sûr que j'ai la chance d'être souvent présent en gymnase avec Mickaël Duski. Donc, elle se prépare pour un très, très gros combat à Las Vegas, possiblement le 12 septembre. C'est là que mon intérêt est présentement. Marie-Ève Dicker aussi. Marie-Ève Dicker, on l'attend. On attend ce combat-là, la confirmation face à Clarissa Shields. Clarissa Shields qui se prétend être la meilleure boxeuse de tous les temps, qui a vraiment un ego très, très démesuré, qui pour moi est une boxeuse très ordinaire dans une catégorie de poids. Un peu plus limité. Marie-Ève Dicker, de son côté, qui fait un travail exceptionnel. C'est pas nécessairement la plus spectaculaire, mais très efficace. Moi, j'ai la chance de l'avoir en gymnase. Puis à chaque fois, je suis impressionné par son travail, sa façon de réfléchir, puis sa hargne. Donc, c'est sûr que moi, ce combat-là m'intéresse énormément. J'aimerais ça voir Clarissa Shields perdre patience, se fâcher, perdre le combat, parce que moi, je trouve que c'est une boxeuse vraiment surévaluée qui si boxait dans une division plus légère, serait probablement dans les bas de classement.
Écoute, je dois mentionner également qu'hier, sur les réseaux sociaux, j'ai vu Adonis Stevenson publier une vidéo de lui en train de courir dans ses rues. Donc, c'est un bon signe quand même, Adonis Stevenson, qui revient de très loin, qui a frôlé la mort et qui finalement réussit à se remettre de ça. Tu parlais de Marie-Ève Dicker, ça s'est passé le même soir où Marie-Ève Dicker est devenue championne du monde. Donc, on salue Adonis Stevenson qui, assurément, a regardé ce combat d'Elader Alvarez ce soir avec beaucoup d'attention. Je vous rappelle qu'Elader Alvarez a subi une défaite par KO contre Joe Smith Jr. ce soir en combat éliminatoire au championnat WBO. Sébastien, merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir de partager ce moment-là avec toi, malgré le résultat. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute sur l'ensemble du réseau Cogeco. C'était Nicolas Amartino et on se dit à une prochaine fois pour une soirée de boxe.